Réussis ta vie. Et pour réussir ta vie, ce soir, réussis ton couple. Alors, en traitant de ce sujet ce soir, mon objet n'est pas de rappeler peut-être à certains de pénibles souvenirs. Pas du tout. Si vous étiez des personnes divorcées ou vivant en concubinage, ne vous en voyez pas juger pour autant, ni par le Seigneur, ni par nous. Mais il s'agit là d'un message absolument important qu'il importe d'adresser à notre génération étant donné l'hécatombe que nous connaissons sur le plan du mariage et de la famille. Voilà pourquoi le choix de ce sujet de ce soir. Et pour l'introduire, quelques versets pour commencer dans les premières lignes du livre de la Genèse. Au chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 26e. Après donc la création du règne minéral, du règne végétal et du règne animal, Dieu fit l'homme. Et ceci nous est rapporté en ces termes. Dieu vit, plutôt. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Puis ensuite, la Bible nous fait savoir comment Dieu s'y était pris. Pour commencer, avec l'homme, pour le créer, au chapitre 2, nous lisons le verset 7e. Au chapitre 2, puis l'Éternel, pardon, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Voilà pour ce qui fut de l'homme, de sa création. Puis ensuite, pour ce qui fut de celle de la femme, nous lisons au verset 22e de ce même chapitre 2 du livre de la Genèse, « L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est haut de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Nous lisons d'autres textes, cette fois dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 5, des textes qui sont couramment entendus lors de cérémonies de mariage. Éphésiens 5, 25. Alors, tandis que nous allons rappeler ces textes, surtout, mesdames, ne quittez pas la place. Et ces messieurs non plus, parce que nous allons les expliquer. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme comme Christ et le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais sainte et irrépréhensible, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. Comme leur propre corps, celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Il y a tant de chagrins, tant de problèmes et tant de souffrances dans ce domaine qu'est le couple, le mariage et la famille, qu'il est aujourd'hui absolument important d'aborder ces sujets au cours de séries de ce type. Je ne voudrais pas réveiller chez certains des souvenirs pénibles. Tel n'est sûrement pas mon objet. Mais savez-vous que le mariage, plutôt le divorce, est tellement dans l'air du temps qu'on en arrive à le fêter. Et vous le fêtez en Belgique, vous ne le savez peut-être pas. J'étais dans les Ardennes belges, à Gemel très exactement, traitant de ce même sujet dans l'église libre de Gemel. Quand le pasteur m'avait confirmé que dans les Ardennes belges, il existe un restaurant où il est possible de fêter les divorces. Les dragées du divorce. Vous les avez croquées? Ou le champagne du divorce? On fête les divorces, il semble que nous soyons littéralement tombés sur la tête. Et j'ai là une publicité qui a paru dans un journal québécois intitulé La Presse. C'est certainement le journal qui a le plus fort tirage là-bas, un journal en français, et qui rapportait la publicité suivante, celle d'un restaurant intitulé Le Mouton Mobile, offrant ses services pour les occasions suivantes: mariage, divorce, chicane de famille, pendaison de crémaillère, heureusement. Hein. Non, il était important de préciser. Hein. Mais oui, nous en sommes arrivés là, parce que le mariage est en chute libre, nous n'en voulons plus. Il comporte trop de risques. Dans mon pays, les chiffres sont les suivants. Il me semble les avoir cités dès le premier soir. Nous savons qu'un mariage sur trois en province ne tiendra pas. Tandis qu'à Paris, c'est un mariage sur deux. Voilà pourquoi je n'ai pas hésité de parler d'hécatombe, littéralement. Et nos savants en prospective, en futurologie, dans ce domaine toujours, nous disent qu'au rythme actuel de la régression du mariage, près de 50% des couples vers l'an 2000 vivront en concubinage et non pas dans le mariage. Et pourtant, le mariage, disons-le, non seulement est une institution de Dieu, mais il est la plus belle de toutes les institutions établies de Dieu. Et le mariage est aussi bien la preuve que Dieu a voulu l'homme sur cette terre pour qu'il vive d'amour. Le mariage et la famille étant par excellence l'école de l'amour. Mais nous ne voulons plus rien apprendre sur ce plan. La plupart du temps, et que c'est tragique, en s'en prenant au mariage. Eh bien, le diable, notre ennemi, a entrepris de nous détruire. Parce que le mariage est à la base de la famille, la famille à la base de la société, et tout est en train de se lézarder, de se fissurer. Et que de conséquences pénibles et difficiles que nous allons aborder de façon franche, honnête, mais surtout Bible en main. Le phénomène du concubinage, par exemple, dans mon pays, est tel que nos autorités en sont arrivées à accorder à peu de choses près les mêmes avantages aux concubins, sur le plan social par exemple, qu'aux mariés. Et vous l'avez peut-être entendu, il y a aussi ces autres concubins de même sexe, auxquels on s'intéresse de plus en plus dans mon pays pour leur accorder aussi des cartes de réduction à la SNCF, puisqu'ils sont et vivent en couple. Alors, n'hésitons pas à aborder ces problèmes de façon claire, franche et honnête, sous un éclairage biblique en même temps qu'évangélique. Pourquoi toute cette souffrance et tout ce chagrin à propos du mariage et de la famille? Parce que l'ordre établi de Dieu à l'origine dans ce domaine a été bousculé, dérangé, et qu'il l'est de plus en plus. Il importe donc de remettre les choses dans l'ordre où Dieu les avait voulues à l'origine. Pour commencer, et c'est à dessein que j'ai lu les textes concernant la création de l'homme et de la femme, l'homme et la femme ne résultent pas du hasard, ils ne sont pas l'aboutissement d'une évolution organique comme on nous l'a enseigné, et comme cela l'est encore bien malheureusement dans nos écoles jusqu'en université, sous prétexte que nous n'avons rien à mettre à la place. Voilà ce qui nous a été répondu, parce que maintenant il est su, connu, que cette théorie de l'évolution organique, eh bien, n'a aucune base sérieuse sur un plan scientifique. Mais que voulez-vous, nous continuons d'enseigner ces choses parce que nous n'avons rien à mettre à la place. Eh bien non, la Bible dit que ça n'est pas vrai. Nous ne résultons pas de la bête, mais nous risquons justement de nous ravaler à son niveau lorsque nous voulons faire la route de notre existence sans Dieu, parce qu'il est une équation dans la Bible, presque constamment rencontrée du début à la fin, et qui est la suivante. Humanité sans divinité verse dans la bestialité. Ceci s'est constamment vérifié depuis que l'homme est sur la terre. Alors, lorsqu'on me dit, Alain Joaquier, est-ce qu'il est vrai que nous descendons de la bête? Je réponds, non, certainement pas. Nous y allons vers la bête. Et en particulier vers celui que la Bible appelle la bête, parce qu'il sera par définition sans Dieu, se dressant même contre lui et se faisant passer pour lui. Donc l'homme et la femme sont des créatures de Dieu. L'homme ayant été la plus belle des créatures de Dieu, parce que seul fait en image de Dieu. Mais quand je dis l'homme, je ne dis pas l'homme en tant qu'être masculin. Je dis l'homme et la femme. Et c'est à eux deux qu'ils forment cet homme fait en image de Dieu, à partir de textes comme Genèse 5, que je lis à présent. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et les appela, ensemble donc, hein, il les appela du nom d'homme au singulier. C'est à eux deux qu'ils forment cet homme au singulier, fait en image de Dieu, lorsqu'ils furent créés. Et ces textes nous font savoir également que ce nom d'homme, nous le tenons directement de Dieu. Voilà comment les choses se sont faites à l'origine, pour commencer. Et c'est de cette manière-là que nous commençons de mettre en ordre ce puzzle tellement dérangé depuis les origines. Une deuxième grande vérité biblique, Dieu fasse qu'elle ne heurte personne, surtout pas ces dames. Hein. Ne quittez pas la place, nous allons expliquer tout cela. Mais la Bible ne dit jamais que l'homme et la femme soient égaux. Ne m'attendez pas avec un rouleau à pâtisserie à la sortie, hein. Mesdames. Non, elle ne le dit jamais. Elle dit que ce sont des êtres semblables, pas égaux, semblables. Et que signifie ce terme « semblable » en français, qui se ressemble? C'est certain. Mais là encore, ne signifiant pas une idée d'égalité. Surtout lorsque l'on sait ce que nos dictionnaires donnent pour définition au terme égal. Je vous invite à vérifier cela ce soir au retour chez vous. En tout cas, mon dictionnaire me dit ce qui suit. Égal, qui ne présente pas ou peu de différence. Mais dites-moi, l'homme et la femme en présentent des différences. Ils sont fondamentalement différents. Or, égal signifie autre chose. Ils sont fondamentalement différents. Ils sont différents au plan morphologique déjà. C'est-à-dire au plan physique. Ils sont différents au plan psychologique, au plan physiologique. Ils sont différents. Ils sont semblables, mais pas égaux. Alors, que nous faudrait-il dire à la place du terme égal? Personnellement, au travers de plusieurs versets, j'ai incliné vers le terme équivalent. Ceci sans jouer sur les mots. Pourquoi? Parce que équivalent signifiant qu'ils ont même valeur devant Dieu. Mais ils ne sont pas égaux, ils ont même valeur. Avec chacun sa vocation précise, même valeur dans un but complémentaire. Par exemple, lorsqu'aux Galates, au chapitre 3 et au verset 28, l'apôtre avait pu enseigner ce qui suit dans l'Église, eh bien, il n'y a plus ni libre, ni homme libre, ni esclave. Pourquoi? Parce qu'ils ont même valeur devant Dieu. Or, un homme libre, un esclave en ce temps-là, n'étaient pas des hommes égaux dans la société. Mais ils étaient des hommes égaux, plutôt équivalents devant Dieu. Il n'y a plus ni homme ni femme, dit-il. Non pas que Dieu soit pour l'abolition des sexes, pas du tout. Mais simplement que l'homme et la femme sont des êtres équivalents dans l'Église, ayant même valeur devant Dieu. L'homme et la femme, donc, sont fondamentalement différents, mais ceci dans un but complémentaire. Mais là où ça ne va plus, dans la définition du terme égal, c'est quand il est ajouté à ce que je viens de dire, ce qui suit, qui présente peu ou pas de différence au point d'être interchangeable. C'est ce que dit mon dictionnaire, au point d'être interchangeable. Or là, la Bible ne marche plus. L'homme et la femme ne sont pas interchangeables. Imaginez qu'on nous entretient aujourd'hui de la possibilité pour l'homme de devenir enceint. Vous l'avez entendu? Au grand bonheur de ces dames, qui se réjouissent qu'enfin les hommes pourront comprendre ce qu'il en est. de l'accouchement, des douleurs de l'enfantement, encore qu'il existe maintenant, est-ce qu'il est convenu d'appeler la péridurale, mais franchement, c'est allé, c'est dérangé, littéralement, le projet de Dieu pour l'homme. C'est un projet qui est contre nature. Ceci est dans les prévisions de la biologie pour les années droit devant nous. L'homme enceint. Parce que l'homme et la femme sont égaux, pensons-nous. Non, la Bible dit même que la femme est un être plus faible que l'homme. En 1 Pierre 3,7. Ma Bible dit un sexe plus faible, mais en réalité, le texte grec dit un vase plus faible que l'homme. Ils sont différents. Et que de problèmes à vouloir les rendre égaux. D'où, précisément, tout ce que nous pouvons connaître de difficultés, de crises dans ce domaine. Dieu veut que l'on distingue entre l'homme et la femme, qu'il a voulu fondamentalement différent, l'homme ayant la propriété d'être masculin avec un destin d'époux et de père, la femme, bien entendu, un destin d'épouse et de mère. Mais voilà, on ne veut plus de ceci, alors qu'il est, ceci est rejeté la plupart du temps à tous les niveaux de l'échelle sociale, et que c'est tragique. Dieu, par exemple, aussi, dans la Bible, veut qu'un homme soit un homme et pas une femme. Il veut qu'une femme soit une femme et pas un homme. Je me souviens de cette jeune femme qui était venue vers moi au terme d'une réunion d'un rallye de jeunesse à Montréal, qui avait mis ensemble quelques 900 jeunes sur le thème « Dieu, les jeunes, le sexe et l'amour ». Évidemment, un tel sujet fait galoper les jeunes, hein, et les fait venir très nombreux. Alors, au terme de l'exposé, une jeune dame était venue vers moi pour me dire « Moi, Alain Chouettier, j'en ai contre Dieu ». Et pourquoi cela ? Parce qu'il m'a voulu femme alors que j'aurais fait un homme comme ça. C'est peut-être ce qui vous arrive, je ne sais pas, ou l'inverse, peut-être chez un homme qui pense qu'il aurait fait une femme du tip-top. Eh bien non, j'avais pu dire à cette femme, c'est Dieu qui vous a voulu femme. Acceptez-vous en tant que tel, c'est Dieu qui l'a voulu. Dieu ne se trompe pas. Acceptez votre vocation de femme, votre vocation d'épouse et de mère, et tout ira bien. Et vous apprendrez que réellement Dieu ne s'est pas trompé quant au dessein, au plan qu'il a formé pour vous. Des plans remarquables, et faites-lui confiance, donnez-lui votre vie. Dieu ne veut pas que on confonde les sexes. Je ne sais si, comme moi, vous avez suivi l'émission de mercredi soir avec Jean-Marie Cavada, la marche de l'histoire sur l'homosexualité. Je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de l'émission. Et voyez ce qui m'avait pincé le cœur, c'est qu'il ne s'était trouvé personne d'invité là, hein, sur ce plateau, pour faire savoir à tous la vérité de Dieu sur ces questions. Difficiles, certes, mais Dieu a parlé de ces choses dans les Saintes Écritures. Voyez-vous, nous avons un Dieu qui est merveilleux, formidable. On s'étonne parfois que j'aborde les questions de la sexualité de façon franche et honnête. Bien, si nous ne le faisons pas, comme ce fut le cas d'ailleurs au cours de cette émission-là, qui était écœurante, mercredi soir dernier, qui l'a vu lever la main pour voir ? Oui, plusieurs. Je n'ai pas pu tenir jusqu'au bout de l'émission. C'était horrible. Et personne, une homosexualité acceptée dans mon pays maintenant. Et l'on va légiférer à cet égard. Il a donc été question de légiférer, d'accorder un support légal à ce phénomène homosexuel dans mon pays. La France. Eh bien non. Mais peut-être êtes-vous homosexuel. Là encore, on ne vous juge pas. Le Seigneur non plus. Pourquoi j'ose affirmer cela? Parce que Jésus a dit une parole remarquable. Que son Père, dans un premier temps, l'avait envoyé vers nous, non pas pour nous juger, mais pour nous sauver. Lui-même l'a dit. Je ne suis pas venu dans le monde pour le juger, le monde, mais pour le sauver. Et si vous étiez homosexuel, le Seigneur est venu pour vous sauver, pour vous tirer de là, et pour vous donner d'accepter ce sexe qu'il vous a voulu à votre naissance. Oh, j'ai pu traiter il y a peu de temps, il y a tout juste un mois et demi, deux mois peut-être, en plein cœur de Paris, avec la présence de plusieurs groupes de jeunes de la capitale, un sujet qui avait beaucoup intéressé aussi et qu'on avait intitulé « Sans sexe sida ». Évidemment, là, les jeunes étaient aussi venus en force, très nombreux. Mais ces jeunes avaient été étonnés lorsque je leur avais affirmé que la Bible, c'est-à-dire Dieu, s'était permis de parler de toutes ces choses de façon libre. N'en revenez pas. Ils me regardaient les yeux écarquillés. Et j'avais pu leur énumérer les lois du sexe et les lois de Dieu concernant la sexualité en Lévitique 18, par exemple, en Lévitique 20. Ils n'en revenaient pas. D'avoir entendu Dieu parler de ces questions taboues de façon libre. Pour nous mettre en garde, bien entendu. Et ce Dieu qui est sage ayant donné des lois, celui qui est à l'origine des deux sexes, il n'y en a pas 36. C'est lui qui les a fait. Et j'avais pu leur dire, écoutez, la sexualité est un don de Dieu. Un cadeau du Seigneur. Mais nous l'avons sali à cause de la corruption. Dieu dit oui pour ce qui la concerne, la sexualité, mais dans le seul cadre du mariage. Et pourquoi Dieu veut-il le mariage? Parce qu'il engage à la fois la responsabilité et l'amour. Mais nous ne voulons que l'amour dans ces choses-là. Nous voulons fuir notre responsabilité. Voilà pourquoi nous versons dans le concubinage. La plupart du temps. Eh bien non, Dieu qui est sage a donné des lois. Il a créé les deux sexes et il a donné les lois du sexe qui sont énoncées dans les Saintes Écritures de façon remarquable pour qu'il y ait ordre, pureté dans ce domaine-là. Mais dès qu'il est question de loi, parce que nous sommes des rebelles de manière viscérale, nous ne voulons rien entendre. Et parce que nous ne voulons rien entendre, que de crises, de souffrances, de problèmes. Oh, vous verriez-vous un patron confier à l'un de ses employés une machine sans lui donner avec la machine quoi? Son mode d'emploi. Bien, c'est ce que Dieu a fait pour ce qui est de la sexualité. Il en a donné des lois. Et ces lois sont absolument remarquables. Alors Dieu ne veut pas que l'homme adopte un profil féminin. Et il y avait sur ce plateau tant d'hommes qui adoptaient mercredi dernier un profil féminin. Et il y en avait aussi des femmes qui adoptaient un profil masculin. Eh bien Dieu aborde ce type de choses. Il le condamne, deux éminents généticiens français. Il y a peu de temps, ont affirmé ce qui suit. Il n'existe aucune raison génétique pouvant expliquer le phénomène homosexuel, il résulte d'un climat, d'une ambiance, mais pas de raison génétique à ce problème. Et je crois que c'est la vérité. Et on tente de nous mettre ces choses dans le crâne comme devant être des choses absolument naturelles. Eh bien non, Dieu ne les accepte pas. Il dit par exemple, pour ce qui est des hommes, les efféminés n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est moi qui dis ça. C'est Dieu par la bouche de son serviteur. Et il condamne aussi la femme qui adopte un profil masculin, parce qu'il veut que la femme soit femme, mais que l'homme soit l'homme. Et je le disais, je crois, dès le premier soir, si ça n'est ici, peut-être tout récemment ailleurs, que Dieu n'est, j'allais dire, certainement pas contre la femme. Tant de civilisations ont déprécié la femme. Jusqu'à nos jours, d'ailleurs, il existe des régions dans le monde où la femme se résume à la bête de somme. Eh bien non, Dieu n'a jamais voulu cela. Et c'est tellement vrai que Dieu, dans les Saintes Écritures, s'il lui est arrivé de s'attribuer certains aspects de la personnalité masculine, il est aussi vrai que Dieu s'est attribué certains aspects de la personnalité féminine. Par exemple, en Ésaïe 49, verset 15, une femme abandonnerait-elle l'enfant qu'elle allait? Même si elle l'abandonnerait, moi je ne l'abandonnerai pas. Je ne vous abandonnerai pas. N'est-ce pas? Dieu se comparant à une femme dans ce texte. Et puis un peu plus loin, en Ésaïe 66, verset 13. Comme un homme que sa mère console, je vous consolerai, dit l'Éternel. Le voilà se comparant à une mère. Eh bien, c'est tout simplement que l'homme et la femme ensemble, de façon complémentaire, sont ensemble l'image de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu a enseigné dès l'origine pour que le couple vive de façon harmonieuse? Comment conçoit-il le couple pour le bonheur du couple? Eh bien, la Bible établit le rapport, nous l'avons lu tout à l'heure, en Éphésiens 5, le rapport homme-femme, Christ-Église. Ah, si nous le vivions, ce rapport, hein, homme-femme-Christ-Église, que de couples, alors seraient, à la dérive, seraient rattrapés pour vivre tout autre chose que ce qu'ils connaissent jusqu'à ce jour. Dieu voudrait que, précisément, le rapport homme-femme soit calqué sur le rapport Christ-Église. Mais voilà qui change tout au niveau du couple. Alors, il faut en dire quelques mots. L'homme est le chef de la femme. Voilà, c'est dit, c'est clair. Et abordons sérieusement, cette question, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'un chef dans les Saintes Écritures et notamment dans le Nouveau Testament? Jamais un tyran domestique. Jamais. Ah, j'en vois des dames qui se régalent. Hein. Non, ça n'est pas un tyran domestique. Qu'est-ce qu'un chef? Eh bien, le modèle, c'est Christ. Le chef en grec, c'est la tête, c'est le même mot. Tête et chef, c'est le même mot. Et la Bible dit que Christ est le chef de l'Église. Être un chef, donc, c'est être comme Christ. Et c'est vivre comme Christ. Alors, ces messieurs qui sont là, est-ce que nous sommes comme Christ vis-à-vis de nos épouses? Peut-être que les choses changeraient. Attendez, mesdames, nous arrivons à vous dans quelques instants. Mais être un chef, c'est être comme Christ, puisque le rapport homme-femme doit se calquer sur le rapport Christ-Église. Il a été, lui, un vrai chef. Il en est le modèle pour nous qui sommes ici ce soir des maris. Chef de nos épouses. Alors c'est quoi encore un chef? C'est vrai que le chef correspond à l'autorité, c'est clair. La tête c'est l'autorité dans les Saintes Écritures, mais non pas l'autorité dans le sens où très souvent ce terme est entendu dans notre monde. L'autorité, évidemment, désigne le chef qui est le plus grand. Mais Jésus a dit une parole à propos de celui qui veut être le plus grand. Vous la devinez? En Matthieu 23, 11, le plus grand parmi vous, la suite, doit se faire le serviteur de tous. C'est-à-dire que le plus grand, c'est celui qui sert. Le plus grand, ce n'est pas celui qui rentre du boulot le soir et qui met les pieds sous la table ou sur la table, ça peut arriver, en disant à son épouse, « Vite, ma chérie, un verre de gros rouge qui tâche. » C'est pas ça, le chef. La Bible enseigne, le Nouveau Testament enseigne que le chef, c'est celui qui sert. Et non seulement ceci est enseigné par le Christ, mais le Christ, en parlant de lui-même, en Matthieu 1, a dit « Le Fils de l'homme, le chef par excellence, le chef de l'Église, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. » Voilà le modèle, messieurs. Nous qui sommes des maris. Et si nous commencions d'essayer de vivre ce que signifie être un chef, les choses pourraient sérieusement changer dans nos foyers. Réussir sa vie, c'est réussir son couple. Voilà pour ces hommes, je ne vais pas en dire plus parce que je risquerais... Bon, passons et venons-en à la femme. Mais quel insigne honneur que de l'avoir comparée à l'Église. Lorsque l'on sait ce que l'Église représente aux yeux du Seigneur en même temps qu'à son cœur. Je ne sais pas ce que nos épouses représentent à nos cœurs. Vous savez que l'Église est réellement la prunelle de l'œil du Seigneur. C'est sa fiancée, son épouse. Et le Seigneur ne connaît que son épouse sur cette terre. Alors, il peut exister des organismes, des associations para-églises. Nous n'avons rien contre elles, au contraire. Moi-même, j'appartiens à une association d'évangélisation aujourd'hui d'espoir. Mais j'insiste sur l'Église. Parce que le Seigneur ne voit que par elle. Et si ces associations, qui ont droit d'existence, certainement que le Seigneur lui-même a suscité, ne servent pas l'Église, elles manquent leur objectif. Parce que l'Église est précisément ce que le Seigneur a de plus précieux sur cette terre. Son épouse. Ce n'est pas mon association d'évangélisation, aujourd'hui l'espoir, à laquelle je tiens, qui est réellement l'épouse de Christ. C'est l'Église. Et elle a vraiment de la valeur à ses yeux. Quel insigne honneur. Et en la comparant à l'Église, le Seigneur a voulu rendre à la femme sa vraie place dans le couple, dans la société, puis dans l'Église également. Le Seigneur a valorisé la femme, sa place, sa signification, sa définition. Voilà qui explique pourquoi tant de femmes le suivaient alors qu'il était sur la terre. Non pas en raison de ce qu'a dit un jour un certain Martin de Scorsese, hein, dans ce film horrible La dernière tentation du Christ. Non, certainement pas. C'est simplement que les femmes avaient réellement découvert en Christ celui qui les avait comprises et qui était venu pour leur rendre leur vraie dignité de femme, leur vraie place de femme, leur vrai rôle, leur vraie fonction de femme. En Jean chapitre 8, le Christ avait osé prendre la défense d'une femme adultère, qu'on avait traînée jusqu'à lui avec chacun une pierre dans la main pour l'assassiner, la lapider, et pour dire à Jésus, voilà, Moïse dans la loi nous a dit de lapider de telle femme, toi, qu'en dis-tu? Et il lui avait tendu un piège. Et le Seigneur, pour dépassionner le débat, s'était baissé pour écrire quelque chose sur le sol, on ne sait pas ce qu'il écrivit, mais ensuite, relevé, il avait regardé la foule, là, dans les yeux, hein, pour lui dire, des hommes essentiellement, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et puis il s'était abaissé à nouveau pour réécrire sur la terre, on ne sait quoi. Mais une fois debout, à nouveau, plus personne, tous étaient partis. Alors Jésus avait dit à cette femme, « Où sont-ils ceux qui t'accusaient ? Ils sont partis. » « Eh bien, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Et c'est sur la base de tel texte que tout à l'heure j'ai osé dire que le Seigneur ne condamne même pas les adultères qui sont parmi nous ce soir. Vous êtes peut-être dans l'adultère. Et l'adultère est tellement fréquent de nos jours que si vous n'étiez pas un adultère, on pourrait se moquer de vous au travail ou dans n'importe quel club mondain. Vous seriez quelqu'un d'insensé à ne pas tromper votre conjoint. Voilà donc un cas où il nous est réellement précisé que le Seigneur n'avait pas jugé cette femme, mais qu'il avait cherché réellement à la sauver. Va et ne pêche plus, bien entendu. Nous avons parlé du concubinage. Jean chapitre 4 nous rapporte une rencontre entre le Christ et une femme qui avait eu 5 maris, qui dit mieux ici, et qui avait fini dans le concubinage, et je mets au défi ici quiconque, de trouver le moindre reproche du Christ à cette femme en concubinage. Pourquoi ? Parce que le Seigneur a affirmé souvent qu'il n'était pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Si vous êtes dans l'adultère ce soir, le Seigneur ne vous juge pas. Il ne vous condamne pas, nous non plus. Seulement, il veut voir cette question avec vous, bien entendu, avec tout l'amour et le tact qui le caractérise, pour vous attirer à lui et pour remettre les choses en ordre avec vous. Je le répète, dans toute l'affection qu'il a pour vous. Parce que très souvent, pour ceux qui nous concernent, il nous est tellement facile de rejeter les concubins, les adultères, les homosexuels. Non, le Seigneur les fréquentait, ceux-là, les gens de mauvaise vie. Et on l'avait jugé en raison de cela. Et nous devons prendre exemple en tant que chrétiens et aller, j'allais dire, sur ses traces, vers ceux qui réellement ont besoin de lui. Mais cette femme adultère, toute tremblante, certaine dans un premier temps qu'elle devait y passer, eh bien, avait été traînée seule devant le Seigneur. Or, les textes disent qu'elle avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Mais on ne fait pas un adultère tout seul. Où était-il passé donc le coco, là ? Ouais, l'homme avec lequel elle fut surprise en adultère, mais c'était un homme, lui, hein. Ah oui, Il bénéficiait de cet avantage. On l'avait laissé filer, mais elle, on l'avait traîné. Eh bien, avec le Seigneur, cela ne marchait pas. Et il est même dit que c'était des femmes qui l'assistaient de leur bien. J'ai presque envie de dire, mais la honte aux hommes. Oui, des femmes lui faisaient des dons pour lui permettre de subsister matériellement. Jusque-là, imaginez. Et la Bible peut être très élogieuse vis-à-vis des femmes. Elle dit par exemple, en Proverbe 18, 22, « Celui qui trouve une femme, qui sait la suite ?» Trouve le malheur. Non, trouve le bonheur. Mais allez chanter cela au bistrot d'à côté, vous allez voir. Vous allez ressortir du bistrot les deux pieds en avant. Allez dans un bistrot pour citer cette parole de Dieu. « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. » Mais ces hommes sont au bistrot, pourquoi ? Parce qu'ils n'aiment pas leur femme. Hein. Et parce qu'ils font tout pour passer du boulot au bistrot et pour finir dans le dodo. Bistrot, boulot, dodo, hein, quand on n'a pas de métro, comme c'est votre cas. Eh bien non, ça ne marche pas avec le Seigneur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Proverbe 31, verset 3, « La femme qui craint l'Éternel est louée, sera louée. » Proverbe 12, 4, « Une femme vertueuse est la couronne de son mari. » Ah, ces messieurs qui sont ici, vous ne saviez pas que vous êtes une tête couronnée. Ne saviez pas ? Mon épouse, du nom de, vous le savez, hein, s'appelle comment ? Oh, j'en ai parlé. Jeanne. Elle est ma couronne. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Et qui plus est encore ? 1 Corinthiens 11, 7 à 8. La femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. Mais si nous considérions nos épouses comme étant notre gloire. Voyez qu'il y a dans ces textes et dans ces enseignements de quoi réellement rattraper nos couples s'il était encore temps du désastre. Oui, la femme est la gloire de l'homme. Imaginez que Satan avait attendu la création de la femme qui fut créée en second pour s'en prendre au couple afin de tenter de l'anéantir. Il n'avait pas encore osé toucher à Adam lorsqu'il était seul en Éden. Mais dès que la femme fut créée, alors il était allé vers eux pour les tenter. Et qu'est-ce qu'il fit précisément ? La désobéissance, eh bien, cette volonté d'autonomie de la part de l'homme et de la femme de vivre sans Dieu. Alors, ils avaient décidé de ne pas écouter cette parole qui leur avait été donnée de Dieu et de faire leur route à eux. Eh bien, les drames dans les couples commencent avec cela. Une volonté d'autonomie de la part de l'homme et de la femme de faire leur vie de couple, leur mariage, leur famille, sans compter avec Dieu, ça commence avec cela. Puis ensuite, j'allais dire, dans nos temps, il y a cette autre volonté d'autonomie. Des conjoints, l'un vis-à-vis de l'autre, on se marie aujourd'hui, je l'ai tellement de fois entendu, on se marie, oui, mais on s'est entendu pour que chacun puisse faire sa vie à lui de son côté. Ça se fait en Belgique, ça ? L'homme s'attache, quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront, quoi ? Une seule chair. Voilà pourquoi ça craque. Cette volonté d'autonomie des conjoints vis-à-vis de Dieu, pour commencer, puis ensuite cette volonté d'autonomie des conjoints l'un vis-à-vis de l'autre. Et voilà pourquoi ça ne peut pas tenir. Alors pour que ça tienne, pour que ça marche, que nous faut-il faire? Voyez-vous, nous avons aussi constaté, c'est clair, que très souvent les couples craquent en raison du refus de se pardonner l'un l'autre. On n'a pas appris le pardon. Et l'on est littéralement obnubilé par l'idée d'avoir constamment raison. Constamment raison dans nos difficultés. Qu'il y ait des situations de tension de temps en temps, c'est normal. Le couple, dans le mariage, étant l'école de l'amour, la famille également. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que nous n'en sortions pas de ces situations de tension qui précisément nous conduisent jusqu'au craquement, jusqu'au divorce, jusqu'à la faillite. Et ce sont les enfants qui trinquent. Alors, ce que des jeunes viennent vers moi pour me dire, Alain Choitier, si vous auriez la bonté de nous marier, j'en ai marié des jeunes chrétiens. Ah, mais est-ce que vous avez appris à pardonner? Est-ce que vous savez ce que signifie le pardon? Parce que je puis vous dire que si vous n'avez pas appris à pardonner, ça ne tiendra pas. Votre couple va craquer. Souvent, il m'était répondu, non, vous savez, chez nous, c'est tout à fait différent, ça va marcher. Parce qu'on n'est jamais comme les autres. On est toujours spéciaux, et puis quelques temps après, hein. C'est la débandade, bien non. Il faut réellement apprendre à pardonner. Mais pour apprendre à pardonner, autant, j'allais dire, chez le mari que chez la femme, il faut préalablement avoir reçu le pardon du Seigneur vis-à-vis de nos péchés. Et tant que nous n'avons pas reçu le pardon de nos péchés, tant que nous n'avons pas appris à quel point le Seigneur nous a pardonné nos fautes en mourant pour elles sur la croix, nous n'avons pas une idée de ce que signifie pardonner à la lumière de la croix, où le Christ est allé pour nous obtenir le pardon de nos péchés. Quelle définition au pardon? Vous êtes bien assis. Attachez vos ceintures. Pardonner dans la Bible, hein. Je ne dis pas dans mon Larousse, mais pardonner dans la Bible, c'est faire du bien à celui qui nous a fait du mal. C'est ça le pardon. Et non seulement le Christ l'a enseigné, mais il l'a vécu dans le sermon sur la montagne. Le Christ a dit « Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. » C'est absolument insensé. C'est irréalisable. Ça n'est pas vivable, oui, ça n'est pas vivable, vous avez raison. Ça n'est pas vivable en dehors du Christ. Si le Christ n'est pas entré dans notre vie, ça ne peut pas se faire. Mais si le Christ est entré chez nous, alors il nous apprend à vivre le pardon. Parce que lui, sur la croix, tandis que la haine des hommes s'était déchaînée contre sa personne, il avait répondu et par des paroles de pardon. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je ne dis pas qu'entre mon épouse et moi, il n'y a pas de temps à autre, c'est très rare, des situations de tension. Mais c'est vrai pour tous les couples. Mais quel bonheur que de pouvoir se retrouver dans le pardon mutuel. Et dans la prière, ça sauve le couple. Ça sauve le couple. Alors, pour apprendre le pardon, recevez pour commencer le pardon du Seigneur. Vous lui avez fait tant de mal, sur un plan personnel Oui, vous l'avez porté jusque sur la croix. Nous l'avons tous porté sur la croix. La Bible dit que nos péchés l'ont crucifié. Et en échange, eh bien, le Christ nous a pardonné. Mais c'est fantastique. Nous pouvons donc, avec confiance maintenant, hommes, femmes, en couple, concubins, nous pouvons venir au Christ, chacun pour lui-même, dans son cœur, pour recevoir le pardon de nos péchés, qui sont graves parce qu'ils ont déchiré le Seigneur sur la croix. Ils en ont fait une loque humaine. Imaginez le Seigneur sur la croix de Golgotha, tout couvert de poussière, de sueur, de sang. Une vraie loque pour ton péché. Par amour pour toi, afin de pouvoir t'accorder le pardon de tes péchés, également pour moi-même. Venons donc à lui, qui que nous soyons, personne divorcée ou vivante en concubinage, peu importe, ou mariée, et même pas mariée encore parce que jeune, ou personne seule. Venons au Seigneur pour apprendre, pour prendre déjà, pour recevoir le pardon de notre péché et pour commencer d'apprendre le pardon avec lui. Sinon, ça ne marchera pas. Ça ne tiendra pas. Imaginez qu'il y a peu de temps, à l'occasion d'une campagne dans le midi de la France, et je terminerai avec cela, on m'avait hébergé chez un couple qui s'étaient mariés deux fois, les mêmes conjoints, deux fois. Une première fois, ils n'étaient pas chrétiens. Alors très vite, ça avait tourné vinaigre, quand bien même ils avaient cru que ça marcherait. Parce que c'est toujours cela qu'on croit. Puis une fois divorcés, chacun avait cherché à vivre pour lui-même, quand le Seigneur avait permis que l'un et l'autre aient pu le rencontrer. Oui, tous deux étaient devenus chrétiens, mais l'un ne savait pas que l'autre était devenu chrétien. Ils s'étaient mis à se rechercher l'un l'autre pour se rendre ce témoignage. Mais je le répète, ils ne savaient pas que l'un, que l'autre s'était converti. L'un ne savait pas que l'autre s'était donné au Seigneur. Et le Seigneur avait permis, eh bien, de leur donner de se rencontrer, puis qui allait ouvrir le feu. Parce que l'un pensait que l'autre n'était pas chrétien. Et c'est lui qui avait commencé avec ces mots. Tu sais, ma chérie, si tu savais ce qui m'est arrivé.
Quoi ?
J'ai fait une rencontre fantastique. Elle de penser, c'est fichu. Il a rencontré une autre femme. Eh bien non, non, non. J'ai rencontré Jésus-Christ. Il a changé ma vie. Et je puis te dire que je ne suis plus l'homme que tu as connu. Et j'ai voulu te rencontrer pour te demander pardon. Ah, ce pardon qu'il n'avait pas su exercer. Hein. J'ai voulu te rencontrer pour te dire réellement pardon. J'ai honte de tout ce que je t'ai fait. Je t'en demande pardon. Le Seigneur m'a pardonné, je veux te pardonner. Et je veux te demander pardon. Parce que nous avons eu des torts tous les deux. Et après l'avoir bien entendu jusqu'au bout, elle devait avoir dit, eh bien moi aussi, j'ai fait cette même rencontre. Lui, non, croyez pas ses oreilles. Hein. Tu as rencontré Christ ? Mais oui, je l'ai rencontré. Eh bien, je suis sauvé maintenant. Et moi également, je ne suis plus cette femme que tu as connue. Et j'ai cherché à te rencontrer, moi aussi, pour te demander pardon. Je porte une lourde responsabilité dans notre divorce. Ils avaient donc ensemble convenu de se retrouver pour prier ensemble. Et puis le Seigneur avait permis un remariage. Alors les voilà de nouveau devant Monsieur le maire, qui n'avait rien compris à leur histoire. Mariés une première fois, divorcés, remariés. Voilà ce que Dieu peut faire. Mais je ne sais pas si votre situation est rattrapable, comme ce fut le cas de la leur, mais il reste que le Seigneur, vous êtes divorcé, il vous aime. Vous êtes concubin, il vous aime. Vous êtes dans l'adultère, il vous aime. Et il cherche à vous rencontrer pour vous sauver. Sauver de l'adultère et vous sauver de vos péchés. Il a ce soir pour vous, qui que vous soyez, des paroles de pardon et non pas de jugement. Mais la Bible dit aussi que si vous les refusiez, ces paroles de pardon pour votre salut, alors vous allez devoir un jour le rencontrer comme votre juge. Ça, il va falloir y passer. Mais pour le temps présent, un temps de grâce. Mais venez au Seigneur, Dieu vous fait grâce. Venez donc maintenant à lui. Mais peut-être ne savez-vous pas comment venir à lui. Alors j'aimerais vous en donner l'occasion de la manière suivante. Nous allons ensemble verser dans un moment de recueillement, de silence, dans lequel je vais dire une prière pour vous la passer. À partir du moment où ce message vous a concerné, oh, je suis persuadé que plusieurs ont été concernés par ce message. Je l'ai été également sur certains points. Il nous a tous concernés. Il a peut-être même concerné des couples chrétiens parmi nous. Alors nous allons répéter la prière que nous allons entendre, mais silencieusement pour l'adresser au Seigneur. Alors dites-lui, Seigneur, tu sais où j'en suis. Seigneur, je sais une chose, c'est que parce que présent ce soir dans ce lieu, tu ne m'as pas laissé à moi-même. Mais je suis là parce que tu me cherches et parce que tu veux le meilleur pour moi. Je suis là parce que tu as des paroles de pardon pour moi. Ô Seigneur, je viens à toi. Oh, tu sais ce qu'a été mon passé. Tu sais toute la vérité sur moi. Eh bien, je viens tel que je suis, avec tout ce que tu sais. Et je sais que tu m'accueilles, tu m'acceptes, parce que tu m'aimes. Seigneur, je viens. Accorde-moi le pardon de mes péchés. Oh, Seigneur, fais-le. Puisque je confesse que je suis pécheur. Maintenant, je le regrette profondément. Seigneur, pardon, grâce pour mon péché. Viens à moi maintenant. Seigneur, accorde-moi réellement d'être sauvé ce soir. Tu vois aussi mon couple. Tu sais ce qu'il vit actuellement. Ô Seigneur, sauve-le par ta grâce. Seigneur, interviens, fais quelque chose. Oui, Seigneur, c'est à toi que je crie, pour moi-même, sans accuser l'autre dans mon couple. Apprends-moi le pardon. Seigneur, aie pitié. Amen.